régler l'assurance logement et la taxe d'habitation qui représentent respectivement 450 et 600 euros. Soutenons Eugénie et Armand qui luttent courageusement face à la maladie et à la précarité et qui mettent tout en œuvre pour adapter leur mode de vie à leurs forces et rester indépendants. Envoyez votre don pour Eugénie et Armand à la Fondation Notre-Dame, mains ouvertes, 7 rue Saint-Vincent, 75 018 Paris. Vous pouvez également effectuer votre don en toute sécurité sur le site fondationnotredame.fr. Merci.
Radio Notre-Dame, Delphine Fraissinet.
Il est quasiment 10h30 sur Radio Notre-Dame, l'heure de retrouver Ecclesia Magazine et Elodie Chapelle. Ecclesia qui se fait pédagogique, puisqu'Elodie va vous donner le mode d'emploi entre le départ du pape et le début du conclave prévu pour le 15 mars. Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Elodie Chapelle.
C'est donc aujourd'hui à 20h que le siège de Saint-Pierre sera vacant. Journée spéciale sur notre antenne jusqu'à minuit pour vous permettre de vivre dans la foi les événements de cette dernière journée pontificale de Benoît XVI, heure par heure. Cet après-midi, à partir de 17h, Benoît XVI décollera du Vatican pour rejoindre pendant quelques temps Castel Gandolfo. Nous serons en duplex avec Rome pour vous faire vivre cet événement. Et puis à partir de 20h, on revient à Paris. Messe d'action de grâce pour ce pontificat. Elle sera présidée par le cardinal 23 et retransmise en direct de Notre-Dame de Paris avec les commentaires de Clément Soudaille et du père de Cany, curé de Saint-Louis-en-Lille. Alors, ce que l'Église vit est inédit. Vous êtes peut-être un peu perdu. Comment se passe le départ d'un pape? L'événement a été préparé depuis le 11 février. Mode d'emploi entre le départ du pape et le début du conclave avec vous, Père Cédric Burguin, bonjour.
Bonjour.
Gros dossier, hein?
Très gros dossier et très intéressant.
Alors, vous êtes membre de la communauté d'Emmanuel, enseignant-chercheur en droit canonique à l'Institut catholique de Paris et vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs. Je précise que vous tenez un blog, Petit billet d'humeur, le Père Cédric au fil des jours et des humeurs.
Oui.
Et c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vous nous avez fait un décryptage formidable d'un motu proprio qu'on va découvrir avec vous. Hein. C'est le dernier motu proprio publié par Benoît XVI, c'était le 25 février, qui précise quelques règles du conclave. Juste avant cela, Père, je vous propose tout de suite de réentendre l'annonce qui a surpris le monde. C'était le lundi 11 février, devant les cardinaux réunis en consistoire. Benoît XVI annonce en latin sa renonciation.
Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la souffrance et par la prière. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005. De telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire.
Voilà, c'est donc Benoît XVI qui nous annonçait sa renonciation le 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Père Cédric Burguin, vous qui êtes enseignant-chercheur en droit canonique à l'Institut catholique de Paris, un point déjà, c'est une renonciation et non une démission. Quelle est la différence entre ces points?
Une démission, elle doit être reçue par une autorité. Quand un évêque, à l'âge de 75 ans, comme il doit le faire, présente sa démission au Saint-Père, c'est le Saint-Père qui accepte ou qui refuse cette démission. Pour le pape, il n'y a pas de démission à donner, puisqu'il n'y a aucune autorité qui est capable de la recevoir. Le pape est au-dessus de tous les évêques. Et donc, c'est une renonciation libre, comme Benoît XVI l'a bien rappelé dans son annonce. C'est la seule condition qui est prévue par le droit pour que la renonciation du pape à sa charge soit effective et réelle. Elle doit être entièrement libre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être faite sous la pression ni de pouvoir politique, ni d'éventuels cardinaux. Elle est entièrement libre, c'est la seule condition qui est posée.
Et pourtant, hier, Benoît XVI, durant son audience générale, a précisé « le toujours est aussi un pour toujours. Il n'y a plus de retour à la vie privée. Ma décision de renoncer à l'exercice actif du ministère ne révoque pas cela. Je ne retourne pas à la vie privée, à une vie de voyage, de rencontres, de réceptions, de conférences. Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une façon nouvelle auprès du Seigneur crucifié. » Ça veut dire qu'il est encore pape ?
Mais vous savez, pour expliquer les choses, on peut faire le parallèle avec le sacerdoce. Un prêtre, il est prêtre toute sa vie. Il ne reprend jamais sa retraite du sacerdoce. Un prêtre a donné entièrement sa vie à l'Église, un évêque encore plus, et combien plus le pape lui-même, qui a été consacré évêque, qui a consacré toute sa vie au service de l'Église, et donc en ce sens, il ne démissionne pas, il ne renonce pas à sa charge d'évêque.
C'est un peu comme le baptême finalement. À partir du moment où on est baptisé, c'est pour l'éternité.
C'est à vie. Et particulièrement dans le cas d'une vie consacrée comme le sacerdoce ou l'épiscopat. Et donc celui qui a été pape ne peut pas renoncer à être évêque au sens sacramentel du terme. Et donc Benoît XVI va profondément rester évêque. Benoît XVI va profondément rester consacré au Seigneur. Benoît XVI va profondément rester attaché à Jésus.
C'est comme si ça coulait dans ses veines.
Exactement, mais à la limite, ça coule dans ses veines. Vous savez, le Saint-Crème qui l'a oint à son ordination épiscopale, le Saint-Crème nous marque corporellement. C'est une huile qui s'imprègne. Et donc, Benoît XVI se sait entièrement donné au Seigneur. Et il sait que cette nouvelle étape de sa vie, comme il l'a dit, et je trouve ça magnifique, et je l'en remercie de nous l'avoir dit comme ça, Benoît XVI va s'approcher encore un peu plus du Christ crucifié.
Alors, Père Cédric Burguin, on va refaire le point avec vous sur toutes les modifications canoniques que tout cela implique. On file tout de suite vers Rome, rejoindre Jean-Marie Guénois. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Aline.
Vous êtes rédacteur en chef en charge des questions de religion pour Le Figaro. Vous êtes sur place, évidemment. Vous suivez les dossiers. Jean-Marie Guénois, quelle est l'ambiance sur place à Rome en ce dernier jour du pontificat de Benoît XVI ?
Il y a quand même une certaine gravité. L'audience de mercredi dont vous venez de parler a été marquée par l'émotion.
Oui.
Mais je trouve que ce départ, cet effacement, cette renonciation laisse pour les cardinaux surtout, ceux qui ont maintenant la responsabilité de penser et d'élire un autre pape, une lourde responsabilité. Ça se sent palpable.
Vous voulez dire que c'est pesant, c'est tendu ?
Non, je ne dirais pas que c'est tendu, mais il y a une certaine inquiétude. Il y a une certaine inquiétude parce que au fond, il y avait quand même une certaine... Bien sûr, le pontificat de Benoît XVI était très attaqué, et ça n'a jusqu'au dernier moment, encore la semaine dernière, et ça... Bon. Mais il y avait une sorte de paratonnerre, c'est quelqu'un qui avait une telle hauteur de vue, une grandeur intellectuelle et spirituelle, que au fond, il était là comme un père, veillant avec des forces qui s'affaiblissent, mais il était là. Et puis là, il renonce, il laisse la place, justement. Et
c'est comme c'est si la barque était un peu sans capitaine.
Oui, il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Il est quand même... Quand Jean-Paul II est parti, on s'y attendait, il avait été très malade, c'était un géant de l'histoire. Là, c'était, si vous voulez, quelqu'un de très sûr, de très qui est vraiment le pasteur. Mm. Et puis voilà, il s'en va. Et là, aujourd'hui, les cardinaux, bon, ils ne le montrent pas trop, mais quand même... c'est difficile parce qu'il n'y a pas pour le moment de grandes personnalités en vue, et il y en a forcément, on va trouver, mais ils vont trouver, mais il y a, pour répondre à votre question, un climat de sérénité. Le pape a dit confiance, il a dit deux fois dans son discours, mais il y a quand même
un
petit fond d'inquiétude.
Jean-Marie Guénois, donnez-nous un aperçu de cette journée, du programme de cette journée avec déjà cette rencontre de Benoît XVI avec les cardinaux. Combien seront-ils à peu près, vous le savez ?
Une centaine, on dit une centaine qui sont déjà présents à Rome. Bon, il y a tous ceux de Curie.
Oui.
Donc il va les saluer un à un tout à l'heure à partir de 11h dans la salle Clémentine, là même où il leur avait annoncé le 11 février sa décision. Et puis après, il va y avoir l'après-midi, tout bêtement, des préparatifs de bagages. Enfin, je crois que c'est déjà pas mal prêt. On nous a